Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. On continue d'explorer la galerie des différents premiers ministres australiens, en tout cas ceux qui ont particulièrement marqué l'histoire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un homme. Alors déjà, dans le cadre de notre série sur les premiers ministres, c'est le premier à être né au XXe siècle. C'est sans doute aussi celui qui a été le plus anti-américain, en tout cas depuis que l'Australie s'est inscrite dans les pas de l'Amérique dans son histoire. Et c'est aussi, et enfin surtout, le seul à avoir été destitué par le gouverneur général. Et donc, à cette occasion, eh bien, cela nous a rappelé à tous que le gouverneur général, le représentant de la couronne britannique au Royaume-Uni, n'est pas juste une fonction purement symbolique, il a aussi des pouvoirs qu'il exerce rarement. Mais dans le cas de ce monsieur, il les a exercés. Donc, le premier ministre dont je vous parle s'appelle Gough Whitlam. Et comme d'habitude, on va dérouler sa carrière et sa vie avec l'historien Romain Fati. Bonjour, Romain.
Bonjour Grégory.
Alors, Gough Whitlam, je vais revenir assez rapidement sur ses premières années. Il est né en 1916 dans la banlieue de Melbourne. Il est issu d'une famille plutôt aisé, enfin, disons classe moyenne supérieure. Son père est un haut fonctionnaire. D'ailleurs, 2 ans plus tard, ils partent s'installer à Sydney pour suivre la carrière de ce monsieur. Et puis finalement, en 1927, la famille s'installe à Canberra. C'est encore rare à l'époque puisque cette nouvelle capitale fédérale a vraiment sorti de terre tout récemment. Et il a donc 11 ans, Gough Whitlam, quand il arrive à Canberra. Et je le précise pour les auditeurs qui seraient concernés, il a fait sa scolarité à Telopea Park School, qui est l'actuel lycée français de Canberra. Je ne crois pas que c'était le cas à l'époque, mais enfin, il a été dans la même école. Et enfin, c'est le premier, en tout cas c'était le premier jusqu'en 2008, à être un premier ministre qui a grandi dans cette fameuse capitale fédérale de Canberra. Mais donc, je le disais, Canberra à l'époque vient tout juste de sortir de terre, c'est la fameuse Bush Capital. Et cette ville, à l'époque, bah, pour y vivre, c'est pas forcément extraordinaire, tout reste à faire, il n'y a pas grand monde et il n'y a pas grand-chose surtout. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, vous qui y vivez maintenant depuis un peu plus d'un an, Canberra en 1927 et au début des années 30, ça ressemble à quoi?
Pas grand-chose, je serais tenté de dire, mais je vais me faire taper sur les doigts, que ça ne me ressemble pas grand-chose aujourd'hui encore. Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, au moment de la fédération, sur laquelle on a fait des épisodes, en 1900, elle prend effet, le Parlement décide qu'il va falloir une nouvelle capitale à l'Australie fédérée, puisqu'avant, c'était une série de colonies, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, etc. Et donc, quand l'Australie se fédère, un peu sur le modèle états-unien où il y a des États et un gouvernement fédéral, il faut bien lui trouver une nouvelle capitale. Et il est décidé, je ne vais pas revenir là-dessus, je crois qu'on avait fait un épisode, que ce serait Canberra, et elle est choisie comme capitale fédérale en 1913. Et à partir de ce moment-là, il faut y construire tout un tas de bâtiments et le Parlement fédéral est transféré de Melbourne à Canberra aussi tard qu'en 1927, ce qui correspond à la date d'arrivée des Whitlam à Canberra, puisque, vous l'avez rappelé, le papa de Gough Whitlam est un haut fonctionnaire, un avocat en fait, qui travaille pour le gouvernement. Et donc, après Melbourne, passe à Sydney, puis de Sydney, passe à Canberra. Et pour se représenter ça, c'est vraiment comme si vous installiez le gouvernement et la capitale dans la Creuse, par exemple, ou dans un espace rural en France, où vous avez, comment dirais-je, une population qui n'est pas dense, et vous êtes dans la ruralité. Et donc, il faut vraiment construire cette ville. À côté, vous avez petite ville, un petit village qui s'appelle Queanbeyan, qui a été établi plusieurs dizaines d'années avant, mais Canberra elle-même reste à construire. C'est-à-dire que pendant des décennies, ce qu'on voit, c'est un plan de ville petit à petit se construit. Donc, on parle vraiment d'une capitale ex nihilo, comme Brasilia, comme d'autres l'ont fait. Et effectivement, la jeunesse de Goff à Canberra, c'est une jeunesse un peu particulière parce il manque de beaucoup de choses. C'est quand même très reculé, dans la campagne, et tout est à construire.
C'est peut-être d'ailleurs ce qui va développer sa fibre sociale. On y reviendra un petit peu plus tard. On avance un petit peu. Donc, Gough Whitlam est maintenant un jeune adulte au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Il va s'engager dans l'armée de l'air et au même moment, en fait, il va commencer à s'investir en politique. Il rejoint d'ailleurs le Parti travailliste en 1945 et puis il se fait élire député, non pas donc à Canberra, mais à Sydney. En 1952, c'est ses débuts. Alors, j'ai vu par ailleurs que, étant issu voilà, d'une famille relativement aisée, qu'il n'a pas été forcément très très bien accueilli au départ chez les travaillistes, qui voilà, représentaient vraiment plutôt les classes ouvrières, et qu'ils se demandaient un petit peu ce que ce monsieur venait faire chez eux. Et puis, accessoirement, c'est très difficile comme entrée en politique parce que, en fait, c'est vraiment le creux absolu de la vague pour les travaillistes qui vont se retrouver pendant près de 20 ans, plus de 20 ans même si on prend en compte la période avant que Gough Whitlam devienne député, dans l'opposition. C'est quand même pas la position préférée des hommes politiques.
Oui, c'est un peu être de gauche sous De Gaulle, si vous voulez. Vous verrez pas le pouvoir pendant un moment. Pour encore une fois reprendre les choses dans l'ordre, vous l'avez dit, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il interrompt ses études de droit alors qu'il allait les finir, et il devient navigateur. Vous savez, anciennement dans les appareils, dans les avions, il fallait quelqu'un pour contrôler les distances, les cartes, le fuel, le carburant, et donc. Il opère dans le nord de l'Australie pour surveiller la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, il fait ses classes, si vous voulez, en tant que quelqu'un qui travaille dans Air Force, dans l'aviation, ce qui sera à son crédit, parce que c'est une époque où c'est assez important, si vous lancez en politique, d'avoir quand même, d'être passé par le domaine militaire. Il épouse, Margaret, qui sera sa femme pour le reste de sa vie, qui elle aussi hein, vient d'une famille assez aisée. Donc vous avez bien fait de le rappeler, quand on regarde ce profil de Gough Whitlam, quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, qui a évolué dans une société plutôt bourgeoise, dont les parents sont éduqués, dont les parents de sa femme sont éduqués, dont sa femme elle-même est éduquée, voilà, c'est pas le lot commun de tous. En fait, ça représente une toute petite élite ou minorité, et effectivement, il s'engage dès 1945 auprès du Labour Party, donc du Parti travailliste australien. Et quand il s'installe à Sydney, il est reçu avec un peu de. Comment dirais-je? C'est pas tellement crédible que quelqu'un qui soit avocat et qui soit issu d'une famille aisée rejoigne le parti travailliste et ouvrier à l'époque. Et donc ça le ralentit un peu dans sa progression, c'est-à-dire qu'il lui faut quelques années pour travailler son réseau à Sydney et pour utiliser ses compétences d'avocat pour défendre, par exemple, des locataires vis-à-vis de leurs propriétaires. Donc il commence à se faire connaître au sein de ce parti qui est un parti un peu fermé. Alors, les politiques sont beaucoup plus libérales, mais je vais prendre l'exemple du Parti communiste en France dans les années 50 ou 60, où voilà, il faut se faire adouber, où il y a des mécanismes qui sont extrêmement rigides. C'est un peu le cas du Parti travailliste australien, qui est beaucoup plus libéral, hein, qui passe du tout sur la même ligne. Mais en termes de fonctionnement de parti, c'est quelque chose d'assez tenu, d'assez fermé. Et donc, entre 45 et 52, il lui faut quelques années quand même. Il travaille ses réseaux pour accéder à un poste de député. De député en 52, c'est un peu la même chose qu'en France à l'époque, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui tient la barre. Là, en l'occurrence, il s'agit du Premier ministre Menzies, qui est le Premier ministre qui a été le Premier ministre le plus longtemps dans l'histoire de l'Australie. Et tout est un peu verrouillé. La droite tient les commandes et elle les tient pendant 22 ou 23 ans de mémoire. Donc, en fait, c'est une longue traversée du désert de la gauche entre 46 et 75.
Alors donc c'est une période assez compliquée pour qui se
De
revendique
49, pardon.
de gauche en Australie. Reste que Gough Whitlam, et malgré donc quelques difficultés au sein même de son parti où il n'est pas totalement accepté, il se fait quand même très vite remarquer dès son discours inaugural parce que, bah, vous l'avez dit, il est avocat, c'est un grand orateur. Il a des surnoms un peu dévastateurs pour certains de ses adversaires politiques. Et donc, je le disais, enfin, au sein même de son parti, il n'hésite pas à aller contre la ligne officielle sur certains sujets et se crée un certain nombre d'ennemis. Mais tout le monde sent bien dans son parti que, comme aux alentours, que c'est quelqu'un qui compte et qui va peser très lourd dans les années à venir.
Oui, tout à fait. En fait, il bénéficie d'un changement générationnel. C'est-à-dire que quand vous êtes un parti d'opposition, vous attirez peu finalement de personnes pour le renouveau. Et dans les années 60, le Parti travailliste australien est tenu par des soixantenaires, parfois plus âgés, qui sont des vieux de la vieille, c'est-à-dire des vrais baroudeurs de la politique, des gens qui savent faire, mais qui n'ont pas été aux commandes depuis un certain moment. Et qui sont aussi porteurs de traditions qui ne sont plus nécessairement en vogue. Et je vais prendre l'exemple le plus criant à l'époque, c'est la politique de l'Australie blanche, vous savez, sur laquelle on a fait un épisode où si vous n'étiez pas blanc, grosso modo, vous ne pouviez pas rentrer en Australie. Et ça, c'est une politique qui était à la fois approuvée par la droite et par la gauche. La gauche, généralement, historiquement en Australie, a toujours été plus anti-immigration que la droite. La droite préfère avoir des migrants parce que ça fait baisser le coût du travail. Ce qui est paradoxal, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Et donc, il y a cette arrière-garde du Parti travailliste qui est plus proche du 19e siècle ou du début du 20e siècle que de la révolution culturelle qui s'opère aux États-Unis, en Europe. Et donc, Gough Whitlam, qui est quand même un peu plus âgé, hein, c'est pas un trentenaire à cette époque-là, est quand même plus, il est plus attrayant. Il amène de la nouveauté. Si vous voulez, pour donner une analogie sur un domaine politique totalement différent, c'est un peu le Nicolas Sarkozy en 2005. Hein. Vous avez les vieux loups de la droite chiracienne et du RPR, et puis vous avez un jeune troublion. Alors, je ne compare pas Nicolas Sarkozy à Gough Whitlam et inversement, mais c'est pour donner ce contexte en fait d'une vieille garde qui se fait un peu dépasser, et il faut le renouveau. Il faut le renouveau parce que le parti ne va pas arriver à percer. Et on le voit bien en fait, les années 60, c'est toute une série de déconfitures pour le parti travailliste. Et donc, Whitlam fait ses classes en apprenant à être dans l'opposition et en se structurant, en posant peu à peu ses pions pour transformer le parti travailliste de l'intérieur.
Et alors, il finit en 1967, toujours dans l'opposition à, en gros, prendre le dessus sur ses anciens leaders du parti qui le contrôlaient et qui peut-être n'avaient pas bien compris que la société était en train de changer. Il en profite donc pour bah, se débarrasser des gêneurs, on va dire. Il impose sa propre ligne, qui se veut plus en accord avec l'époque. Et par ailleurs, au-delà des idées qui sont défendues, il y a un changement de style assez radical qui est mis en place par lui. J'ai vu par exemple que c'est le premier à avoir instauré la pratique du shadow cabinet, donc en gros qui consiste à avoir un contre-gouvernement qui répond point par point aux politiques menées par le gouvernement à la tête de la majorité au Parlement. Et puis, il va se mettre aussi à faire beaucoup de déplacements à l'étranger, à rencontrer des présidents, des premiers ministres d'autres pays pour vraiment bah, se construire une image d'homme d'État. Et apparemment, à l'époque, en tout cas quand on était dans l'opposition en Australie, ce n'était pas quelque chose qui se faisait à l'époque. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'il va voilà, gagner des points dans l'opinion et se construire donc cette image d'homme d'État qui était peut-être indispensable pour un parti donc qui était dans l'opposition depuis quasiment 20 ans pour que les Australiens se disent, ah, eux aussi, ils sont crédibles.
Oui, tout à fait. Enfin, Whitlam, en fait, il dépoussière la politique australienne. C'est vraiment un changement totalement radical. Et les Australiens l'ont vécu comme ça, d'ailleurs. Et ils l'ont voulu, ils l'ont souhaité. C'est pour ça qu'il a été élu. Mais avant qu'on arrive à ce point-là, rappelons qu'il devient donc chef du parti travailliste et donc leader de l'opposition en 67. Et c'est un poste qu'il récupère après, justement, un de ses vieux de la vieille, Arthur Calwell, qui était déjà ministre en 45, qui a été l'architecte d'une politique de migration plus ouverte vis-à-vis des Européens en Australie dans l'après-guerre. Pour augmenter la population australienne. Et donc quelqu'un qui était très connu, qui est en politique depuis des décennies, mais qui est fondamentalement, je ne sais pas, mais qui demeure assez raciste, qui a des idées assez passéistes. Et donc il dépoussière le Parti travailliste en disant, voilà, on entre dans une nouvelle phase, une gauche plus ouverte, plus tournée vers les problèmes contemporains. Et en fait, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est d'élargir la base électorale de la gauche sur la classe moyenne. C'est-à-dire de dire aux Australiens, le Parti travailliste n'est pas un parti uniquement pour les ouvriers, pour les travailleurs, pour les employés. Ça peut aussi être un parti qui peut faire avancer la condition de la classe moyenne. Et je vais passer quelques années à dérouler mon programme sur l'éducation, sur la place de la femme dans la société. Donc, c'est quelqu'un qui a du temps. Là, on est en 67, hein. Il est élu en 72. Donc, il a quand même 5 ans pour poser des jalons, pour parler aux Australiens, pour les rencontrer. Et surtout, vous l'avez souligné, chose qui n'était pas facile à l'époque, ne serait-ce que parce que les distances, le coût, c'est quelqu'un qui commence à se développer une stature internationale. Et un de ses coups de maître, c'est qu'il part en Chine, de mémoire, en 71. Il va en Chine. Et à l'époque, la Chine est communiste, enfin, elle l'est soi-disant toujours. Et donc, l'Australie étant dans le giron des États-Unis pendant la guerre froide, c'est un peu un scandale. Alors, le parti au pouvoir de droite dit, regardez, est-ce que c'est ça que vous voulez? Quelqu'un qui va en Chine, c'est du grand n'importe quoi, ça met en péril notre relation avec les États-Unis. Une semaine après, Kissinger était en Chine pour préparer la visite de Nixon. Et donc, en fait, coup de théâtre majeur, si vous voulez, c'est un hasard total du calendrier, mais ça a fait que les Australiens se sont dit, ah mais attendez, en fait, il n'est pas si à gauche que ça, pas si dérangé que ça, puisque le président des États-Unis lui-même va en Chine, alors que notre premier ministre australien de droite était en train d'affubler Gough Whitlam des pires noms d'oiseaux pour y être allé. Donc Whitlam, c'est quelqu'un qui est audacieux, qui avance, mais qui a eu aussi beaucoup de chance dans sa carrière politique, des hasards qui ont été parfois bénéfiques à sa carrière et d'autres, comme on le verra, qui ne l'ont pas été. Et effectivement, il met en place le système de shadow cabinet, c'est-à-dire que dans l'opposition, quand vous n'êtes pas aux manettes, vous formez quand même un pseudo-gouvernement, un gouvernement d'opposition, pour montrer aux Australiens que si il y avait une transition, vous seriez prêt du jour au lendemain à prendre les commandes et à travailler. Et ça, c'est important parce que là, ça fait quand même 15 ans que le gouvernement, que la gauche n'a pas été au pouvoir, et donc il faut qu'elle soit crédible. Et pour être crédible, il met en place tout un tas de ministres d'opposition, si vous voulez, d'alternatives qui ne sont pas encore ministres, mais qui siègent au Parlement en tant que députés. Et chacun a son portfolio et doit proposer des réformes. Et ça séduit parce que les Australiens se disent, ah, ils travaillent quand même. Ils nous proposent un programme alternatif.
Ouais, ils sont pas juste là pour dire non, quoi. Et donc,
Exactement, exactement.
on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a donc pu en apprendre beaucoup sur les premiers pas dans la politique de Gough Whitlam. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode qui s'intéressera cette fois à son arrivée au pouvoir. Ce sera donc en 1972. On se retrouve donc dans quelques jours pour parler de tout ça. Merci à tous de nous écouter.